chez Enviro-Connexion. Nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Enviro-Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sani Estrie au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes d'éboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Enviro Connexion. Ma route, mon succès.
Le show à l'évêque.
Le show à l'évêque.
Avec Stéphane Lévesque.
Stéphane Lévesque. Stéphane Lévesque analyse l'actualité avec vous.
Avec vous.
Truck Stop Québec.
Ici Stéphane Lévesque et vous regardez Québec Crime. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des cas troublants, des meurtres à caractère sexuel. Et Éric, tu nous as préparé quelques dossiers, dont entre autres, sur Denise Thérien, qui est une jeune femme qui a été retrouvée assassinée et victime d'agression sexuelle. C'était au début des années 60 en Shawinigan. Shawinigan, donc, peux-tu nous mettre en contexte?
Oui, en contexte, on est en 1961.
Oui.
Et pour être plus précis, le 7 août, parce qu'il y a une importance avec la journée du lendemain, c'est que le 7 août, ça commence par un appel téléphonique. Il y avait un centre d'emploi à Shawinigan. Il y avait une dénommée Micheline Thérien qui travaillait là. Elle avait 17 ans à l'époque, qui est la sœur de Denise Thérien.
D'accord.
Et puis elle répond au téléphone, comme son emploi l'exigeait. Et puis, c'est une voix d'homme au bout de la ligne et qui dit s'appeler Claude Marchand. C'est que Claude Marchand-là voulait engager une jeune fille pour garder ses enfants. C'est ce qu'il disait, son chalet d'été, tout ça.
Juste une précision, le Claude Marchand en question,
on
présume que c'est un nom inventé.
Oui.
Parce que dans le secteur où elle va débarquer en autobus, il n'y a pas de Claude Marchand.
Non.
Non. Donc, quelqu'un fait accroire.
Voilà.
On comprend. Ouais. Donc, on demande une gardienne. Micheline passe à sa sœur.
Oui, automatiquement, tout naturellement, parce qu'en plus, elle était au courant que sa sœur Denise, plus jeune qu'elle d'un an, qu'elle voulait un peu travailler cet été-là pour payer un cadeau à son père, puis bon, tout ça. Elle n'avait jamais travaillé, sauf dans la famille un petit peu, mais comme vrai, véritable emploi, elle n'avait jamais travaillé.
Et la jeune Denise, elle avait quel âge?
16 ans.
16 ans,
ouais.
OK. Et ce cas-là est particulier parce que les gens qui vont nous regarder, bien, on est en Mauricie, peut-être des gens à travers le Québec qui vont nous y regarder, tant mieux. Mais il y a des contemporains de Denise.
Oui.
Il y a peut-être de ses frères et sœurs qui sont toujours vivants.
Oui.
Tu me racontais que tu avais donné une conférence il y a quelques temps. C'était à quel endroit?
L'année dernière, au Cap de la Madeleine.
Cap de la Madeleine. Et il y a une dame qui est venue te voir parce que tu parlais de cette affaire-là. Tu en as fait un livre, d'ailleurs.
Oui, oui.
D'ailleurs, on va en parler plus tard. Il y a une dame qui est venue te voir après et qui a dit bien, c'était mon amie, Denise.
Oui.
Donc, c'est un sujet qui est délicat. Puis on va l'aborder avec délicatesse.
Oui.
Donc, Denise, Micheline reçoit un téléphone pour un emploi de gardienne.
C'est ça.
Sa sœur lui relaie l'information. Et là, on est le lendemain, le 8 août.
Le lendemain, son père s'était offert à Denise pour aller la reconduire le matin. Puis l'entente, c'était d'aller la reconduire à l'arrêt d'autobus. Parce que le monsieur avait insisté, le fameux marchand en question avait insisté pour dire « Bon, ben, elle peut prendre l'autobus, je vais y rembourser son billet, tout ça. » Mais son père à Denise voulait aller la reconduire. Mais comme il travaillait sur les chiffres à l'époque, il dormait, puis Denise, au matin, pendant qu'elle se préparait, tout ça, elle n'a pas voulu réveiller son père. Là, je tombe un petit peu dans l'interprétation, mais peut-être qu'elle a voulu montrer qu'elle était autonome, qu'elle était capable de te faire un bout de chemin toute seule.
Puis elle avait 16 ans.
Ben c'est ça.
Moi, ma fille a 16 ans. je lui laisse prendre l'autobus.
C'est là, ça, exactement.
En espérant qu'il n'arrive jamais rien.
Là, non, non, c'est ça.
On ne peut pas accuser le père de négligence là-dedans, loin de là.
Surtout pas.
Petite fille de 16 ans prend l'autobus pour aller travailler.
C'est ça. Bon. Et puis, elle prend l'autobus, comme c'était prévu. Et selon le témoignage du chauffeur d'autobus, qui va arriver plus tard, lui, il a descend, le lieu du rendez-vous, c'était en face du cimetière Saint-Michel, à Shawinigan-Sud.
Oui.
Et puis lui, il fait son arrêt d'autobus. Il fait un premier arrêt, parce que comme le cimetière est tellement long qu'il y a comme deux arrêts d'autobus le long du cimetière. Premier arrêt, il n'y avait personne, fait qu'elle a hésité. Il a vu, lui, que Denise avait hésité beaucoup. Puis qu'elle trouvait personne, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien, personne qui l'attendait.
Personne,
là.
Moi, exact.
C'est ça.
Elle dit, c'est peut-être pas là.
Ouais, c'est ça.
Allons à l'autre, c'est ça.
C'est ça, fait qu'elle a continué. Au deuxième arrêt, elle a descendu. Et puis, lui, le chauffeur d'autobus, se souvient encore là qu'il n'y avait personne. Et c'est la dernière fois qu'on va la voir vivante.
Et évidemment, sa disparition, le fait qu'elle ne donne pas de signe de vie, ça alerte son père.
Évidemment.
Qu'est-ce qu'il va faire, son père?
Rapidement, dans la journée même, ils vont la chercher. Là, les recherches, je les détaille dans mon livre, là, on ne s'étendra pas sur les recherches. Mais les deux premières semaines, ça a pris deux semaines avant que la police s'intéresse au cas, parce que les autres, ils pensaient que c'était une fugue.
Donc, adolescente, 16 ans, quoiqu'elle n'avait pas un comportement qui pouvait faire penser à...
C'est ça.
Pas une fugueuse.
Là. Non, c'est ça, c'est une jeune fille sans histoire, vraiment.
À son affaire, comme on dit. Mm-hmm. Donc, le père va mobiliser. Il va avoir une fouille, dans le fond, des environs du jour. Oui. Et pourquoi, tu su pourquoi la police avait tardé en enquêtant?
Pas vraiment. Il n'y a pas de point précis, mais on voit qu'il se relançait la balle parce que M. Thérien avait commencé par aller voir tel poste de police. Là, il disait que non, ça relevait de la SQ. La police provinciale à l'époque, à SQ, c'est en 68. Donc, c'est ça. Il se relançait la balle un peu, mais lui, évidemment, comme père, il n'était pas capable d'attendre. Donc, toute la nuit, il a cherché, il s'est épuisé vraiment.
Et
il n'a jamais lâché.
On est loin de l'époque des alertes en mer. Oui. Il y a une sensibilité, même qui n'était peut-être pas là tant que ça, là, 5 ans, 10 ans.
Non, c'est vrai.
Mais là, maintenant, il y a un enfant qui disparaît. Ouais. On se met en action rapidement. Les autorités se mettent en action.
C'est ça.
Donc, il y a fouille. Battu qui est organisé.
Ouais.
Il y a un appel dans les médias. Mm-hmm. Et là, dans ces cas-là, malheureusement, comme c'est dans le cas de Mélanie Decamp, moi que j'ai particulièrement étudié, quand tu lances un appel au public, il se ramasse de l'information. On achemine l'information, mais il y a des gens qui profitent de ces occasions-là. Tu reçois ça, tu sais que ça n'a pas d'allure, mais
ça
prend du temps à gérer ça. Puis ça fait des fois que la police ne se concentre pas sur des vraies informations.
C'est ça,
il va y avoir des médiums. Qu'est-ce qu'on va arriver?
Ah oui. Ça, puis aussitôt qu'il y a des récompenses aussi, comparé dans les dossiers. On dirait que tout le monde veut toucher à la récompense, là, mais la famille Thérien a vraiment été débordée parce qu'ils continuaient à recevoir, je ne sais pas comment que ça s'est produit, mais leur numéro de téléphone s'est vraiment propagé, à un moment donné, fait qu'ils recevaient toutes sortes d'appels eux-mêmes.
Et le père, dans son enquête, va croiser la route d'un homme qui travaille au cimetière Saint-Michel.
Ouais.
Qui s'appelle comment, cette
Marcel année? Bernier.
Marcel Bernier, c'est le fossoyeur,
c'est
qu'on appelait à l'époque. Maintenant, on appelle plus ça comme ça, mais en tout cas. C'était lui le préposé au cimetière.
C'est ça.
Et le père en question, qui s'appelle comment, notre homme?
Henri Thérien.
Il va constater que le monsieur a un comportement étrange.
Très étrange.
En quoi qui est étrange?
Parce que tout naturellement, vu qu'elle a été vue la dernière fois devant le cimetière de Saint-Michel, bien évidemment, lui, il a commencé ses recherches dans ce secteur-là. Et il y a une petite maison qui n'est plus là aujourd'hui, là, mais la maison du fossoyeur qui servait vraiment pour les travaux. Il ne dormait pas là. Il y avait, Marcel Bernier avait sa propre maison sur la rue Saint-Laurent à Shawinigan. Et puis, il va cogner. Henri Thérien va cogner avec un ami là, qui l'aidait à faire les recherches. Et puis, la porte s'ouvre. Au moment que la porte s'ouvre, Marcel Bernier leur apparaît en train de manger une sandwich au concombre. Moi, c'est pas ma tasse de thé, les concombres.
Mais ça incrimine pas quelqu'un de manger des sandwichs au concombre.
Mais le fait qu'aussitôt qu'il a reconnu, parce que là, le visage de M. Thérien était déjà dans les médias, aussitôt qu'il a reconnu M. Thérien, il a manqué s'étouffer vraiment avec la sandwich. Et aussitôt, il est devenu très, très, très nerveux. Il s'est mis à parler, à répondre à des questions qu'on ne lui posait pas. Là, genre, à un moment donné, il dit, il les a emmenés en arrière dans la petite maison, puis il dit ça, c'est un lit de camp. Il dit, c'est monsieur le fossoyeur que je remplace, qui était là avant des années, puis ça a l'air qu'il est mort là. T'sais, il racontait toutes sortes de choses qui avaient ni queue ni tête. Puis M. Thérien a eu des gros doutes, évidemment, mais ça peut être un huluberlu. Il n'y avait pas moyen encore de relier ça à la disparition de sa fille, parce que là, on s'entend qu'à ce moment-là, c'est encore considéré comme une disparition. Mm-hmm. Fait que c'est la première, vraiment, c'est le premier son de cloche là, qui survient à ce moment-là.
Mais là, M. Bernier, il fait son enquête, là. Mais
Oui, non, c'est correct.
La différence est importante. M. Therrien fait son enquête. La police a rendu à un moment donné dans le dossier.
On ne sait pas vraiment ce que la police a fait. Ils ont commencé à embarquer, mais un petit peu plus tard. À ce moment-là, okay. Ils n'étaient pas encore dans le dossier.
Pas encore dans le dossier. Non. Donc, ils constatent ça. Mm-hmm. Et là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Là?
Qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre journée que j'ai pas notée, là. Mais il y a une autre journée que quelques... Encore au moment où on considérait qu'elle était disparue. Oui. Marcel Bernier débarque, parce que là, c'était rendu à cette époque-là que tout le monde savait où les Therrien habitaient. Les gens passaient pour leur souhaiter bonne chance, n'importe quoi. Fait que Henri Therrien ne dormait plus, là. Okay. Vraiment, il était bon.
Il était bouleversé.
Oui, puis il y a un soir, je pense que c'était un dimanche, un soir ou un après-midi, qu'il pouvait enfin relaxer. Là, il y avait comme un petit temps mort. Il est sorti avec sa femme sur la galerie, juste pour s'asseoir, prendre l'air. Il y a une camionnette qui s'arrête dans sa rue, devant chez lui. Et c'est Marcel Bernier, qui était en compagnie de sa mère et de son épouse. Mais là, il se dit des choses, il venait l'encourager un peu, mais c'est pas clair. Tu sais, Marcel Bernier avait de l'air, pas quelqu'un de confus, mais quelqu'un qui vient jouer dans tes plates-bandes puis tu ne l'as pas demandé. Là,
oh, ouais. Bon. Qu'est-ce que tu veux, toi?
Oui, c'est ça, exactement. Tu sais. Fait que il a dit à un moment donné, excusez mon langage, mais il a dit, votre fille, là, il dit, pour l'avoir fait ce qu'ils ont fait, ça prend un crisse d'écœurant. À ce moment-là, c'était une disparition.
OK.
Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par ce qu'ils ont fait, puis que ça prenait un écœurant pour faire ça? Ça, c'est revenu parce que M. Therrien était tellement débordé que c'est des choses, probablement, qui sont venues, qui ont allumé après. Là,
oh oui, tout ça. C'est dans le drame de l'événement.
Oui, parce que là, on parle de Bernier, mais il y en avait plein d'informations qui rentraient.
Fait que là, lui, ça passe, mais quelques temps plus tard, il repense, il dit, c'est bien bizarre ce qu'il m'a dit.
C'est ça. Mais Bernier, on sait qu'il a intéressé la police depuis le début, mais il devait manquer de preuves.
OK.
Parce que ça passait dans les journaux. Après, il passait sur l'anonymat, puis en tout cas, tout ça. Mais c'est resté... ça a pris du temps. Vraiment, là, le dossier s'éternisait, ça stagnait. À un moment donné, là, il a fallu attendre en 65, un petit peu avant 65, la fin de 64. Là, c'est M. Claude Wagner qui rentre en fonction.
Qui était ministre de la Justice, procureur général sous le gouvernement de Jean Lesage. Et là, en 65, on était sur la fin du règne de Jean Lesage. Mm-hmm. C'est l'Union nationale qui va reprendre le pouvoir en 66. Mais à ce moment-là, Wagner est ministre de la Justice, puis lui, il se mêle du dossier.
Oui, parce que la mère de Denise, elle est tannée. Parce que là, ça fait 4 ans là, que sa fille a disparu, puis elle n'a aucune nouvelle.
On n'a pas de piste, on n'a pas entendu parler qu'elle a été vue à Vancouver,
rien du tout.
Aux États-Unis, et disparue de la terre.
Oui. Okay. Fait que là, elle écrit une lettre à M. Wagner, et lui, vu qu'il avait des origines de Shawinigan, il a été sensibilisé par la lettre. Tu sais, des fois, on dit qu'on écrit aux politiciens, ça donne rien, mais pour une fois, ça a donné quelque chose.
OK.
Et puis lui, il a dit, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Il est allé chercher un enquêteur de renom à l'époque, qui s'appelait Richard Masson.
Oui.
Et puis, il a dit, je vais mettre Richard Masson, je l'envoie à Shawinigan, puis tu ne reviens pas tant que l'affaire n'est pas réglée.
Fait que là, il y a une prise en charge du grand boss.
Oui.
Parce qu'après, premier ministre, c'est le ministre de la Justice. En tout cas, du moins des affaires judiciaires. Puis là, on va avoir justement le dénouement de cette intervention-là après la pause.
Chez Enviro Connexion, nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Enviro Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco, au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sally Estrie, au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion, au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes déboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Enviro Connexion. Ma route, mon succès.
On a, à ce moment-ci de l'affaire Denis Terrien, l'entrée en matière de M. Masson, mandaté par le ministre de la Justice lui-même, pour aller régler ça en lui disant « tu reviens quand c'est réglé ».
Et il a tenu parole.
Ouais. Comment il va procéder, notre Richard Masson?
Exactement. L'enquête policière, c'est toujours mystérieux. Hein? Oui. Une façon de procéder, tout ça. Puis d'autant plus, comme on se disait, les dossiers de police, ça prend 100 ans. Mais j'ai eu la chance là-dedans, il faut que je le dise. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. J'ai le dossier de police de Denise Terrien caviardé, parce qu'il m'a été donné par Isabelle Terrien, qu'on va parler tantôt, la nièce de Denise, qui a écrit un livre et tout ça.
Caviardé dans le sens qu'on a biffé des éléments.
On a biffé surtout des éléments, je veux dire, des personnes, mettons, l'identité de personnes interrogées, parce que, tu sais, comme j'expliquais dans la première émission, ce qui est important, c'est de ne pas partir à la chasse aux sorcières. Okay. Des gens qui n'ont pas rapport, finalement, parce qu'il y a plein de gens qui sont interrogés et qui n'ont pas nécessairement de lien avec...
OK. Fait que pour la police...
C'est ça.
Puis, en tout cas, ben, tu me parleras du chemin, comment tu as fait pour voir ça, parce que je n'ai pas, moi, de dossier de police
c'est
chez
très,
moi.
Très rare.
Donc, tu as un extrait, justement.
Mais la particularité, c'est ça, c'est qu'il y a un extrait très intéressant que vous m'excuserez de lire un bout. C'est Richard Masson qui écrit ça. Ça donne l'impression, puis là, on est en 64-65, puis là, c'est avant qu'on utilise les termes de tueur en série, de profilage et tout ça, puis ça donne un peu l'impression qu'il faisait du profilage. Donc, je lis l'extrait. Monsieur Masson écrit « Nous voyons Bernier, en parlant de Marcel Bernier, confident, tout en faisant planer l'intrigue. Nous le voyons sadique au point de vue sexuel, méchant surtout en boisson. Nous le voyons sous l'empire de la crainte, mais aussi très confiant. » Nous le voyons à son naturel, très vulgaire, avec ses parents ou amis, assez intime. Nous le voyons sous un tout autre angle quand il est en compagnie de personnes à qui il veut faire bon effet. Nous le découvrons très coulant vis-à-vis son employeur immédiat ou quand il veut s'attirer des faveurs. Donc, c'est quelqu'un qui est manipulateur Nous le voyons très différent quand il n'a rien à gagner. Et tous ses traits de caractère reflètent... Tout au long de cette enquête, c'est un cabotin, un menteur hors pair, un vicieux. Il a tout ce qu'il faut pour en faire le cynique personnage que nous recherchons.
On pourrait lire ça puis parler de Ted Bundy?
Oui.
Ça correspond un peu à ce genre de personnage, de tueur en série. Juste pour faire une petite aparté là-dessus, il y a une science... on peut dire, qui s'est développé, entre autres, à partir des États-Unis.
Les sciences du comportement.
C'est
vrai, c'est un peu ce qui m'a amené les lectures. Tu sais, je ne m'improvise pas pour un profileur, mais vraiment pas, parce qu'il y a des auteurs qui le font, hein. Faut pas s'en cacher. Ouais. Mais après avoir lu tout le dossier de Marcel Bernier, tout ça, on y reviendra, là, mais moi, j'en viens à la conclusion que c'était un tueur en série ou en devenir, là, parce que la plupart des spécialistes, même Stéphane Bourgoin, dit que ça prend 3 victimes pour en arriver à dire que c'est un tueur en série. Marcel Bernier en a fait officiellement 2, mais dans sa façon de procéder puis de tendre ses pièges, parce qu'avant de donner Terrien, ce que le dossier de police nous apprend, c'est qu'avant de réussir, je dis réussir, mais pas dans un terme en tout cas.
Pas dans un sens positif.
Non. Quand il réussit à enlever Denise, il avait déjà fait des tentatives sur d'autres jeunes filles. Donc, quand il a appelé au centre, moi, c'est ce que je pense, quand il a appelé au centre d'emploi pour avoir un emploi, il était rendu à cette stratégie-là.
Il y avait un stratagème qu'il avait développé, il avait eu des échecs,
Parce que les autres jeunes filles, les enlèvements avaient avorté, entre autres, une fois, parce qu'une jeune fille s'est présentée au rendez-vous, mais était venue avec son père.
Okay.
Une autre fois, qu'il y avait un policier qui était proche, puis elle se sentait, tu sais, fait que ça...
Fait que là, notre Marcel Bernier est arrêté. M. Masson a accompli sa mission. M. Masson, juste pour faire... il a fait un peu du profilage. On n'appelait pas ça comme ça, mais...
Il en faisait un peu.
Peut-être avec cette gang-là aux États-Unis. Et il va être arrêté. On va le casser. hein, en termes de police. Là, on va le casser. Il va témoigner.
Ouais, il va avouer.
Il va avouer.
Ouais.
Puis là, il va indiquer au policier où est enterré le corps.
Ouais.
Parce que 61, 65, on a une disparition, on n'a pas de corps.
Non, c'est ça.
Là, on trouve le corps.
Oui, sous les indications de Bernier.
OK. Et parce là, on est en avril 1965.
Oui, ça commence en début avril. Vraiment, ça s'échelonne sur un mois à peu près. Là.
OK.
En début avril, ben là, lui, il amène les policiers en forêt, pas loin de la rivière Saint-Maurice. Mais à cause qu'il restait beaucoup trop de neige encore, le sol était gelé, donc ils ont été obligés de revenir puis de revenir. Mais là, la police a installé sa machinerie, si on peut dire, pour essayer de...
Faire un genre de campement pour
fouiller. Oui, mais il a fallu vraiment attendre la fin avril pour réussir à trouver, parce que lui-même avait de la misère à se repérer, là, parce que quand il avait laissé le corps de Denise là, on n'était pas en hiver, on était encore en été. Donc, tout ça en boudant.
Et là, on va avoir un procès... qui est, pour la couronne, c'est Maître Jean Bienvenu.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est le Jean Bienvenu?
Le Jean Bienvenu, je crois que oui.
Oui, qui a été ministre sous Robert Bourassa.
Je pense que oui.
Qui a été juge.
Oui, après, oui.
Oui.
Oui, puis il a même présidé l'autre procès auquel on va parler tantôt, l'affaire Dion.
OK. Est-ce que tu as l'information de qui présidait le...
Oui, c'était Paul Lesage,
okay.
Un ancien avocat, lui aussi, de la Défense, je crois.
Donc, on a un procès. Il n'y a pas trop d'ostinage à ce procès-là?
Non, le procès commence vraiment de façon routinière. Les parents témoignent pour expliquer les circonstances de la disparition. La mère de Denise témoigne aussi pour identifier les bouts de tissu, pour dire que la robe qui avait été retrouvée, tout ça, que c'est elle qui l'avait confectionnée pour sa fille. Donc, on établit tout le contexte, là, si on veut. L'autopsie aussi, les détails de l'autopsie. Ce qu'il y a de particulier un peu qui a pu être mal interprété par certains auteurs ou producteurs de contenu, c'est que Marcel Bernier n'a pas témoigné à son procès. C'est un choix, puis ça ne peut pas être critiqué. La Couronne ne peut pas se servir de ça pour dire « Ah, ben il n'a pas témoigné à son procès, c'est un méchant garçon, c'est son droit. » C'est ça. Mais en ne témoignant pas, tout son passé criminel n'a pas été expliqué au jury.
Oh!
On n'a pas le droit, quand un témoin se met dans la boîte et dit « Bon, ben je témoigne pour ma propre cause », là, on peut ressortir son passé puis tout dire. Mais s'il refuse de témoigner, on ne peut pas parler parce que le système judiciaire est fait de façon à ce qu'on juge un fait à la fois.
Mm-hmm.
Donc, ce fait-là, c'est le meurtre de Denise Thérien. On ne pouvait pas parler de rien d'autre.
Mais ce qu'on en sait, c'est que c'est un récidiviste.
Oui.
C'est une carrière, une vie de crime.
Très longue. Très longue. Sa carrière commençait je pense qu'elle a commencé en 43.
OK.
Pour des vols, plein de choses. Il s'est retrouvé même à la prison de Trois-Rivières un certain temps. Il écrivait des lettres à des jeunes filles. On voyait déjà qu'il y avait des tendances.
OK. Fait que là, il y a un aspect pédophile, sadique, un peu. Bah, en tout cas.
Il a même abusé de ses enfants. Il avait deux fils.
Là. OK.
Oui.
OK.
C'était un ménage, d'après ce qu'on... Moi, j'en dis plus dans mon livre, là, des fois... Mais c'est ça, le ménage n'était pas... Sa femme a demandé le divorce aussi dans les années 60, parce que c'était pas rose, d'après ce qu'on voit, les jugements qu'il y a eu. Non, vraiment, c'était quelqu'un de très, très, très particulier. Là.
OK. Et l'aspect du dossier de police, parce que là, évidemment, Denise Thérien, c'est 1961, il y a des gens qui l'ont connu, comme on le mentionnait, qui sont toujours de ce monde. Il y a des gens de la famille qui t'ont contacté.
Oui, bien, moi, pour faire une histoire un peu courte, je la raconte dans mon livre, c'est qu'il y a eu un premier livre en 2009 écrit par Isabelle Thérien, qui a fait ça à compte d'auteur, mais très bien fait. Pour quelqu'un de la famille, elle s'est montrée très objective.
Son lien avec Denise, c'est sa nièce,
mais elle est née après, donc elle ne l'a jamais connue. Mais par contre, elle a fait l'effort de ce que plusieurs auteurs font pas, c'est d'aller consulter le dossier du procès à Québec, à BANQ Québec. Puis elle a remis ça. Elle n'a pas tout raconté les témoignages comme moi j'ai fait, puis mettre le maximum. Mais elle a remis les faits en place. Elle a défait des affirmations que Bernier avait faites, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1977, Bernier, c'est la même année qu'il est mort, mais Stanquet a publié ses confessions parce qu'il a décidé, lui, en prison, d'écrire ses mémoires, puis de dire...
Pour passer le temps, écrivon. Puis Stanquet a publié ça, puis il y avait des foleries là-dedans.
Beaucoup. Il disait qu'il se vantait d'avoir tué Laurette Beaudoin, qui, elle, était sa maîtresse, une prostituée de grand-mère, tout ça. Donc, sa deuxième victime, c'était elle. Mais aussitôt que ça tombait sur Denise Thérien, « Ah non, je ne suis pas coupable. » Puis là, il se disait victime d'une erreur judiciaire. T'sais, il dit qu'il est tueur dans un puis pas dans l'autre. Moi, ce qui me revenait de façon cyclique, pourquoi que ça expliquait ça, c'est peut-être, là je dis vraiment un peut-être, parce qu'en prison, c'est mal vu d'avoir tué une adolescente. T'sais? Fait que est-ce qu'il voulait se défendre avec ça, je sais pas. Mais vraiment, il disait des incohérences comme le curé Leblanc. Le curé Leblanc, la particularité, c'est qu'au moment d'arrêter, il y a eu une certaine stratégie quand ils ont arrêté Bernier la première fois. C'est que lui, il travaillait pour le comme fossoyeur pour le cimetière. Puis son boss, en quelque sorte, c'était le curé Leblanc.
Ben oui.
Un curé originaire de Champlain, d'ailleurs. Puis, à un moment donné, ce qui est arrivé dans les vrais faits, lui, il disait que le curé avait couché avec sa femme, puis plein de trucs qu'il inventait, puis en tout cas, tout ça. Il décrivait des scènes. Je pense qu'il écrivait ses propres fantasmes dans son livre, à quelque part, là, c'est fou. Ouais. Puis il disait même qu'il y avait eu des liens, il avait rencontré Léopold Dion en prison, puis qu'il échangeait des trucs, ou, tu sais, en tout cas, ouais. Bref. Mais avec le curé Leblanc, c'est qu'à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, il a été congédié, parce que là, il pétait des coches là, vraiment terribles, là. Il a pointé une arme à feu sur le curé Leblanc. Et puis avec lui, le curé Leblanc n'avait jamais porté plainte. Là-dessus, là, la police a réussi à le convaincre de porter plainte sur cette accusation-là. Là, ça leur a fait un motif pour arrêter Bernier. Puis en arrêtant Bernier, ben pourquoi on va le questionner un peu sur l'affaire Denise Thérien. Puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à le faire craquer.
OK.
Ouais.
Parce que cet homme-là va mourir en prison.
Oui, en 77.
Il y a deux meurtres de reliés. À ta connaissance, est-ce qu'il y aurait d'autres meurtres qui pourraient être reliés à Bernier?
J'en ai pas trouvé. Il faudrait vérifier entre mon dos, parce que la façon qu'il a procédé avec Denise Thérien, c'est un peu comme si c'était son premier crime, vraiment. Okay. Donc, il faudrait regarder à peu près entre 61 et son arrestation en avril 65. Okay. Mais j'ai pas trouvé de cas, vraiment.
Et dans son livre, Bernier, est-ce qu'il va... donner une justification à la fin. Des fois, ils font ça, les tueurs en série, là. J'ai été possédé par le diable. Ou Bundy, ah, c'est à cause de la pornographie.
Ouais.
Lui,
bon, la société.
C'était pas de ma faute, c'est la société. Bernier.
Non, Bernier, non. Même, il se vantait d'avoir tué Laurette Beaudoin parce qu'il disait qu'elle méritait, que c'était moins que rien. Puis, tu sais, c'est vraiment.
Une histoire particulière.
Oui, très.
Donc, puis là, dossier, là, ça m'intéresse.
Oui.
Conclue là-dessus.
Oui.
Isabelle va te donner le rapport de police.
Oui.
OK, mais elle l'a de où, elle? Ah! Mystère. On se laisse sur ce mystère-là, puis on vous revient avec d'autres causes de meurtre à caractère sexuel qui ont marqué l'histoire du Québec.
Ouais.
Chez Enviro-Connexion, nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Enviro-Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco, au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sally Estrie, au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion, au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes déboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Enviro Connexion. Ma route, mon succès.
On va maintenant s'intéresser à l'affaire Veuillette-Aurel. L'orthographe qu'on a dans les dossiers, c'est pas Veillette, c'est Veuillette.
Oui, c'est ça. Moi, ça m'a surpris parce que moi-même, je suis un Veillette. Puis je me disais, c'est peut-être un de mes ancêtres dont je ne suis pas trop fier.
Oui, en effet.
Parce que dans ce cas-là, c'est un autre meurtrier. Ça semble tout le temps ce nom-là qui revient.
C'est en 1917.
Oui.
Et il y a un lien, je dirais, particulier avec cette affaire-là. C'est qu'il y a une descendante.
Il y a une descendante. Puis assez récemment, ça s'est passé dans les derniers mois sur mon site Historiquement Logique. J'avais écrit un premier article. L'année dernière, puis ça s'est fait rapidement. Des fois, on a des nouvelles deux, trois ans après. Mais dans ce cas-là, ça s'est fait rapidement. Puis la dame, elle m'écrit, puis elle dit, elle a vu mon article. Moi, j'ai fait un article sur Léna Morin, qui était visée par Aurel Veuillette. Là, on va raconter après les détails du crime. Mais elle, elle a survécu, puis elle a témoigné contre lui. À son procès, elle a eu beaucoup de courage, parce qu'elle avait 15 ans à l'époque. Okay. Et puis, moi, j'ai fait un article sur son courage qu'elle a eu de témoigner, puis bon, d'affronter l'agresseur, puis tout ça. Puis là, elle dit, ben, hey, c'est ma grand-mère, ça.
Hein?
Ouais. Ah, c'est trippant.
La petite fille t'a écrit,
ouais.
Puis elle t'a elle t'a dit quel type de personne c'était, elle t'a parlé d'elle.
Ça, c'est très gratifiant parce que là, elle m'a envoyé des photos de Léna Morin des années après.
Ouais.
Et puis là, j'ai su qu'elle avait gagné à la loterie en 72. Elle a eu une vie difficile parce qu'elle est tombée veuve, elle s'est mariée.
OK.
Et je vais me garder des petits détails pour la fin parce qu'on va comprendre plus après là, à propos de son fils, entre autres. Elle est tombée veuve assez jeune. Mais elle a continué à travailler très dur dans une maison de location, tout ça. Et puis, elle est décédée. Elle a gagné à la loterie, donc en 72, elle a pu vivre une vieillesse un peu plus...
confortable.
Oui. Ah. Puis elle est morte dans les années 80. Là.
Fait que,
Puis c'est sa petite fille, Laurie McDonald, que je salue en passant, qui m'a écrit, qui j'espère, nous écoute. Là.
Oui, parce que tu as des communications avec elle. Tu
as parlé
de notre projet.
Oui, donc, elle était très intéressée parce qu'elle a... ce qui la faisait la plus triper, là, c'est vraiment qu'on parle de Léna, vraiment
de
ce qu'elle est devenue. Ouais, c'est ça.
Bon, pour comprendre comment elle a fait preuve de courage, Aurel Veuillette, 17 ans.
Oui, très jeune.
Aurait développé une attirance particulière pour Léna Morin.
Oui. De ce qu'on sait de ce dossier-là, ça se passe en Témiscamingue, dans un coin assez reculé, boisé, puis très peu peuplé.
Du côté québécois?
Ah oui, du côté québécois, oui. Puis lui, il aurait été adopté par la famille Morin. Cette Veuillette-là, on ne connaît pas de parents. J'ai fait quelques recherches, là, sans pousser au maximum. Là. Mais il aurait été orphelin ou quelque chose comme ça. Mais il a été adopté par les... Donc, il a grandi avec les Morin.
Dans la famille.
Oui, dans la famille. Puis là, rendu à l'adolescence, il a peut-être développé un peu des petits neurones. Il a tombé un peu attiré par Léna Morin.
Puis le père, Paul Morin, ça ne fait pas son affaire.
Non.
Il est interdit de voir sa fille, puis il jette dehors de chez eux.
Oui, exactement.
Okay.
Là, Veuillette va rester habiter chez des voisins un peu plus loin. Mais lui, il s'est dit dans sa tête, ça ne restera pas là. Parce que là, la seule affaire qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Léna était intéressée par Veuillette, mais il n'y a rien qui l'indique. Fait que je ne penserais pas. C'est peut-être lui qui avait une fixation. Là.
Oh,
une pas mal fixation pour ça.
Maladie.
Oui. Okay. Il décide d'emprunter l'arme à feu d'un voisin en disant, moi, je m'en vais à chasse à l'ours.
Ben oui, il y a des coins pour ça. Là.
Ben oui, c'est ça. Fait qu'il épingle la carabine.
Il y a du bois en masse.
Oui, c'est ça. Mais au lieu de s'en aller dans la forêt, justement, il va s'installer dans le grenier de la grange des Morins.
OK.
Et puis, le crime, au moment que ça survient, Léna Morin, qui avait 15 ans, elle entend le coup de feu. C'est son père qui est tué sur le premier coup.
OK.
Je ne sais pas si Veuillette avait c'était quoi ses antécédents, mais il était très bon tireur parce qu'à chaque coup, il a pogné sa cible à chaque coup. Premier coup, Paul Morin, senior, tombe à terre, mort sur le coup. Léna Morin, avec sa mère, décide, puis son petit frère de 5 ans, Paul Junior, décide, eux autres, ils sont tous épouvantés là-dessus, de voir leur père tomber. Hein? Fait qu'ils s'en vont courir pour essayer de le sauver, mais il était déjà trop tard. En arrivant sur place, parce qu'il y avait quelques dizaines de pieds à courir, là. En arrivant sur place, un deuxième coup de feu. Là, c'est le petit Paul Junior qui tombe, mort sur le coup lui aussi. Donc, deux victimes. Léna Morin, en panique, pogne son petit frère mort dans ses bras. La mère à côté d'elle, elle l'accompagnait. Tout ça, ils retournent toutes les deux en courant à la maison. Mais pendant qu'ils couraient, pendant qu'ils retournaient, troisième coup de feu, là, c'est la mère qui est atteinte dans un coude. Heureusement, elle va survivre, là. Il rentre à la maison, c'est le crime se termine un peu comme ça.
Ah.
Donc, Léna Morin, quand elle a témoigné, après ça, l'année suivante, au procès de Veuillette, c'était tout le confronter ça, la fusillade qu'il avait eue, puis que lui était caché.
Puis on comprend qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de CAVAC. Là.
Non.
Il n'y a pas de centre d'aide aux victimes, donc c'est elle a fait ça de façon très courageuse.
Ça s'appelle « Mets du brandy dans ton café, puis va témoigner. » Là.
Ah, c'est une histoire, c'est ça. Donc, la dame en question, Léna, comme tu disais, a eu une vie...
Parce que la particularité, ce que je gardais pour la fin, c'est qu'elle a eu, quand elle s'est mariée, pas longtemps après le procès, là, elle a eu une vie normale, mais son enfant, elle l'a nommé Paul, en l'honneur de son père et de son petit frère décédé.
Belle histoire. Oui. Merci, Eric. On va maintenant parler de Lucien Picard. Le 28 juillet 1954, il y a un petit gars, 6 ans, Raymond Trudeau, qui est porté disparu à Montréal. Ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à la vague de disparition de petits gars qui s'était fait en 84, à l'Halloween, en novembre. Les trois garçons qui étaient disparus. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est déjà arrivé avant.
Ah oui.
Raymond Trudeau portait disparu. Et un de ses amis va dire l'avoir vu partir avec un inconnu, tout en précisant que l'homme avait une drôle de peau.
Oui, ça c'est un détail à retenir. Voilà.
Donc, les recherches commencent et la famille s'implique. Comme dans le cas de Denis Sterrien, la famille va donner une récompense. Oui. Offre une récompense de 250 $ à l'époque.
Oui. Et dans ce cas-là, ça va se régler plus rapidement. Ils vont retrouver des traces du disparu plus rapidement. Là. Mm-hmm. Donc, le 31 juillet, déjà 3 jours après, il y a 2 travailleurs qui découvrent vraiment des morceaux de cadavres dans des déchets qui avaient attiré leur attention un peu, tout ça. C'est vraiment... Là, c'est une cause vraiment plus morbide, là.
Donc, on vous avertit à l'avance.
Oui.
On vous avertit. Si vous voulez arrêter, c'est bien correct.
Oui,
c'est correct. On va continuer. On va parler de détails assez scabreux.
Oui.
Donc, on trouve une boîte qui, à l'intérieur, la première boîte, il y a 2 jambes et 2 mains.
Oui.
On en retrouve une autre boîte.
Oui. La police débarque sur les lieux, puis là, on retrouve la tête.
Oui.
Qui, elle, avait manqué les oreilles et le nez. Le nez avait été découpé. C'est comme si là, tout ce qui pouvait se découper avait été découpé. Là. Et puis, juste une parenthèse comme ça, mais je vous le dis tout de suite, on ne les mettra pas à l'écran. Moi, je les ai vus, les photos de ce dossier-là. Puis, c'est pas beau.
T'aurais aimé mieux pas les voir.
Oui. Oui, vraiment. Moi, je comprends. C'est ça. C'est des fois que ça... Ça n'ajoute pas nécessairement plus au dossier non plus.
Oui, c'est ça. Mais c'est des documents légaux, donc c'est conservé puis c'est normal.
C'est ça, oui. Pour comprendre, ça nous aide à comprendre, mais bon.
Un enfant de 6 ans en plus.
C'est ça. C'est ça qui passe moins bien.
Oui.
Il y a des locataires au fil de l'enquête. Il y a des locataires qui se plaignent aussi que sur la rue La Gauchetière, qui était même à une certaine époque, cette rue-là, ça brossait pas mal dans ce coin-là. Les autres, ils commencent à détecter des odeurs nauséabondes, là, tout ça. Puis là, on se rend, c'est pour ça que rapidement, tout se fait assez rapidement, en quelques jours. La police, ben là, ils finissent par identifier l'appartement où ça sent pas bon.
Mm-hmm.
C'est l'appartement de Lucien Picard. Okay. Et puis, c'est ça, là, ils découvrent dans l'appartement directement, ça sent vraiment pas bon, jusqu'à temps qu'ils tombent sur une valise qui était en arrière d'une chaise. On les voit sur les photos judiciaires aussi, là. Là, c'est le reste du corps qui est dans cette valise-là. Il avait gardé. C'est comme s'il s'était débarrassé d'une partie du corps, mais il a gardé l'autre dans son appartement.
Comme dans des cas classiques, récemment, quelques dizaines d'années, Jeffrey Dahmer,
autre
en Milwaukee,
qu'on
a appelé le boucher de Milwaukee. Donc, tueurs qui vont décapiter leurs victimes, vont conserver des morceaux pour...
Cannibalisme, ou je ne sais pas dans son cas. Je sais qu'il y avait même des barils d'acide, lui, dans son appartement.
Donc, un avis n'est pas là. Le Picard,
Picard, lui. Picard, il a senti la soupe chaude, hein, si on peut me permettre l'expression. Il était parti se sauver dans la direction de Québec, où il avait déjà habité.
Oui.
Et puis là, quand la police l'attrape, ben là, on réussit à faire, surtout à cause de son frère, qui raconte à la police juste une petite biographie de son passé à lui. Donc, pour faire vite, Lucien Picard, c'était le 23e enfant d'une famille de 24.
Oui.
Il travaillait comme machiniste. À 29 ans, il avait connu un premier mariage avec une femme qui lui a donné 2 enfants. À 38 ans, il se retrouve veuf.
Oui.
Il place, pour pouvoir se remarier, il place ses enfants dans un orphelinat. Son mariage, son deuxième mariage, est vraiment de courte durée. Puis cette deuxième femme, ben là, elle l'a quitté, là, probablement... On ne sait pas pourquoi, mais on peut quand même s'imaginer une portion là, qui ne fonctionnait pas.
Et sa rage meurtrière, dans la chronologie des événements, elle va commencer là. Son meurtre, y en a-tu d'autres? On ne sait pas. En tout cas, celui-là, on sait que c'est lui. Là.
Ouais.
Donc, il va vivre une séparation. Puis on voit souvent ça dans la littérature concernant les tueurs en série. Il y a un événement stressant, un stresseur qui arrive, décès, perte d'emploi, tout ça. En passant, c'est pas parce que tu perds ton emploi que tu deviens tueur en série.
Non.
Il y a des prédispositions, oui, ces oui, gens-là. Oui. On n'est pas des spécialistes, là, mais c'est pas des monsieur, madame, tout le monde.
Non, il y a un bagage à ça. T'sais, oui, il y a un élément déclencheur, oui. Mais c'est des, oui. C'est des bombes à retardement aussi. Oui. Il y a quelque chose.
Puis les éléments à l'enfance, c'est peut-être oui. Niveau aussi, même au niveau neurologique, qui sont identifiables. Oui. Donc, c'est ça. Et il est arrêté.
Oui.
Et le crime. Juste à le relater, on avait le dégoût, moi puis
oui.
Toi.
Oui, oui,
c'était
oui.
Pas, c'est non, pas agréable là, d'écrire. Les gens vont réagir.
Ils vont réagir à un point que pendant l'enquête de coroner, qui était publique à cette époque-là, la sécurité a dû être renforcée autour de l'établissement parce que là, les gens voulaient carrément le lyncher. Ils voulaient se débarrasser de lui. Là, c'est trop épouvantable. Puis ça a fait quand même, c'est une chose qu'aujourd'hui, Lucien Picard, c'est pas un nom très connu dans le judiciaire, mais à cette époque-là, ça a été très, très médiatisé. Là, pour.
Et dans le cadre de l'enquête préliminaire, le juge Irénée Lagarde,
ouais.
Il considère que la preuve est trop circonstancielle mm-hmm. Pour amener ça à un procès.
Ouais.
Mais là, il y a un homme
ah, ouais.
Qui va intervenir.
Ah oui, c'est Maurice mais... Duplessis.
Oh, dis-moi, tu m'as volé mon punch. Un gars de Trois-Rivières, Maurice Le Noblet Duplessis,
ouais.
Qui est à ce moment-là, là, il était premier ministre. Il aimait ça l'ouvrage, notre ami Maurice.
Oh, ouais, ouais.
En 1954, il était premier ministre.
Ouais.
Puis il était procureur général en même temps.
Oui, ouais, il y avait deux. Les deux fonctions. Oh, ouais, il cumulait les deux fonctions.
Oh,
ça a été comme ça dans
oui.
Mais c'était comme ça pour tous les premiers ministres.
C'était un gars de même. Ça. Donc, Maurice Duplessis, il applique, on appelle ça le « preferred indictment ».
Oui, « preferred indictment », ça permet de casser la décision d'un juge. Puis de se rendre au procès directement.
Donc, le juge lui a fait ouais. Sa job, mais en tout cas...
Dans les faits officiels, ouais. Le juge décidait qu'il n'y avait pas assez de preuves pour aller en procès, mais Maurice Duplessis il a fait comme... Il y en a assez.
C'est moi le chef.
C'est ça.
Le chef. Le chef a décidé qu'il allait avoir un procès.
C'est ça.
Et il y aura un procès.
Oui.
Maître Paul Aubu, qui va être assuré la défense de Picard,
oui.
Et on aurait peut-être fait la même chose,
ah, ouais.
Va demander une expertise psychiatrique.
Ouais. Parce que ce qui frappe là-dedans, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est la violence de ce crime-là, le démembrement, tout ce qu'on
oui.
Veut. Est-ce qu'il y a eu agression sexuelle? Je ne sais pas, mais ça regarde vraiment mal qu'un homme de cet âge-là s'en prenne un enfant de 6 ans. Tu sais, il y a tant quelque chose, puis qu'il ne connaissait pas non plus.
Ouais,
puis moi, je me suis toujours dit, avec la gravité de ce crime-là...
Il y a une planification.
Oui, puis il y a... Écoute, là, il y en a qui n'aimeront peut-être pas le terme, mais il y a des coups de pratique aussi. Tu sais, les tueurs ouais. En série ne commencent pas avec des cas hyper violents. Tu sais, comme Jack l'Éventreur, il y avait ouais. Même une progression. Son dernier crime, c'était épouvantable.
Ouais. Bien, on voit, exemple, des fois, c'est d'allumer des feux dans la
forêt. Oui, c'est ça.
Démembrer des petits animaux.
Moi, ça me surprend qu'il n'ait pas fait d'autres victimes ouais. Avant. Ou des coups d'essai, ouais, ou tu sais, ouais, okay. Je sais pas.
Et le 2 novembre 1954, devant le juge Wilfrid Lazur, ouais. Picard... va déclarer ce qui suit. « Je suis coupable de meurtre et je veux être pendu le plus tôt possible. Il n'y a pas de justice pour moi ici-bas. Je ne l'obtiendrai que dans l'autre monde. J'en suis persuadé. On a tellement parlé de moi, on a tellement dit à mon sujet, on a raconté tellement de mensonges que je veux en finir. Cette justice que je réclame, je suis convaincu que je ne l'aurai pas sur terre. » T'écoutes ça, pas de l'air d'être un gars qui assume ce qu'il a fait.
Non.
Il dit, vous n'êtes pas digne de me juger ici, je serai jugé dans le divin. Pour conclure, l'affaire Picard va être jugée coupable. Son avocat va avoir essayé de plaider l'aliénation mentale, mm-hmm. Ça ne sera pas reconnu, mm-hmm. Et il va être pendu
ouais.
Le 11 février 1955.
Ouais.
Ce qui met fin à cette histoire-là.
C'est un plaisir.
On va aller vers un autre personnage. Moi, je...
Dans les crimes à caractère sexuel,
ouais.
Je pense que c'est un incontournable.
Un incontournable. Ouais. Une certaine, puis je vais mettre des gros guillemets, célébrité.
Ouais.
Il y a eu une émission des grands procès, entre autres, sur lui. Léopold Dion,
ouais.
Qui a sévi dans les années 60. Et ça commence comment, Léopold Dion? C'est un gars de où, ça?
C'est un gars de Québec.
Ouais.
Ben, Québec, Pont-Rouge.
Pont-Rouge,
là,
un secteur
Saint-Raymond.
Dans ces coins-là.
Oui, oui, oui. Et puis ça commence le 20 avril 1963 dans une sortie scolaire. Tout ce qu'il y a de plus banal. Là,
comme on en a fait, comme j'en
ouais,
ai fait,
exactement.
Comme les gens qui nous regardent en ont fait. Tu sais.
Une sortie scolaire qui se produit dans le coin du Saguenay.
Oui.
Et puis, à la fin de la journée, tu sais, quand on ramasse les enfants, tout ça, on fait le décompte, les professeurs, bien, il y en a un qui manque à l'appel. Et c'est le petit Guy Lukanuk, ou Lukanuk, là, je ne sais pas comment prononcer.
En tout cas, c'est un jeune garçon qui disparaît.
Ouais, jeune garçon qui manque, ouais, il est vraiment pas...
Il n'est pas là.
Il n'est pas là. Mm-hmm. Donc, première disparition.
Quelques jours plus tard, le 5 mai 63,
ouais,
il y a une enquête qui est amorcée concernant le petit Guy.
Ouais.
Mais entre-temps, il y a Michel Morel, 8 ans, et Alain Carrier, 10 ans,
qui disparaissent
dans le coin des plaines.
Ouais.
C'est les plaines d'Abraham à Québec.
Oui, carrément.
Fait que là, on a des disparitions.
Là, on en a trois, là.
Et là, la police va faire le lien entre ces trois cas-là.
Oui.
Rapidement.
Parce qu'il y a des similitudes, puis tout ça. En tout cas, on ne s'attardera pas sur... Mais c'est ça, les trois cas, déjà, la police sait que sont presque convaincus que c'est relié.
OK.
Le 25 mai 63, là, on a affaire à Pierre Ouellette, 14 ans, qui, lui, se fait aborder au terminus de Québec par un homme assez costaud, là, mm-hmm, tout ça. Et puis, qui lui offre de le reconduire chez eux. Mais évidemment... Le petit Pierre avait des bons parents puis qu'ils l'ont probablement bien éduqué là-dessus. Lui, il refuse.
On n'embarque pas avec des inconnus.
Hein? Et voilà.
Il s'est rappelé ça, lui.
Oui.
Ça y a sauvé la vie.
Oui. Mais aussitôt que le refus, l'inconnu le relance en lui offrant un boulot chez lui, à son chalet de justement de la région de Pont-Rouge.
À Pont-Rouge, oui.
Puis là, ils prennent rendez-vous puis le lendemain. Tu sais, le petit gars dit bon, ben OK, peut-être que je pourrais gagner une pièce ou deux. Puis,
mais vigilant en parle à son père.
Oui.
Puis son père, il va avec lui.
Oui.
Puis il est rendu sur place, au chalet?
Non, ça se fait en ville.
OK.
Ils ne se sont pas rendus au chalet.
Je t'ai donné un point de rencontre.
C'est un point de rencontre en ville, à Québec, pas loin d'où ce que Pierre restait.
OK.
Et puis, c'est ça, le père se rend... là, la surprise, c'est que l'homme en question, l'inconnu, qui va être bientôt connu, il lui est déguerpi, parce que là, c'était pas prévu dans son plan, lui, qui rencontre le père. Hein. Il en voulait juste à l'adolescent. Donc, il prend la fuite, mais le père a le temps de prendre le numéro de plaque. À partir de là, ben, l'inconnu devient connu sous le nom de Léopold Dion. Là, la police sait au moins qui rechercher.
Parce qu'il va se nommer.
À cause du numéro de plaque de l'auto.
OK, c'est
ouais,
bon.
C'est
et
ça.
Le même soir, il y a un garçon, un jeune adolescent, Pierre ouais. Marquis, 13 ans,
ouais.
qui disparaît.
À son tour, lui, dans la plage de Lens au Foulon.
Okay.
Il était censé se rendre là. Je pense qu'on ne sait même pas s'il s'était rendu.
Et les Ouellettes...
Les Ouellettes, le même soir, décident de contacter la police puis de donner les informations qu'ils ont.
Il s'est passé quelque chose de bizarre.
Ouais.
On aimerait ça en informer les policiers.
C'est ça.
C'était une bonne idée.
Oui,
c'était
très bonne idée.
Très bonne idée.
Parce que là, en tombant sur l'identité de Léopold Dion, bien, Léopold Dion, c'est quelqu'un qui avait un lourd passé. Il avait passé pratiquement la moitié de sa vie, même s'il n'était pas tellement âgé dans ce temps-là. Il avait 43 ans. Mais il avait passé la moitié de sa vie pratiquement déjà derrière les barreaux. Pour des crimes, d'ailleurs, à connotation sexuelle. Il avait même violé et presque tué une ancienne institutrice.
De Pont-Rouge.
De Pont-Rouge,
il avait fait du temps pour ça. Il avait commis des actes indécents sur un garçon de 10 ans aussi.
Oui.
Donc, un aspect pédophile violent, dans le fond.
Très violent. Ouais.
Et donc, c'est ça. Fait qu'on plus tard, il est arrêté.
Oui, ils l'arrêtent, oui.
Mi-juin 63, on découvre le corps.
Sous les indications de Léopold Dion.
Du petit Guy.
Oui.
Et c'est à Pont-Rouge.
C'est ça.
C'est à Pont-Rouge.
Parce que, grosso modo, lui aussi, c'est une affaire dans laquelle j'ai le procès. Je n'ai pas encore tout lu, mais j'en avais lu une bonne partie. Son frère possédait un chalet, mais c'est Léopold qui s'en occupait. Donc, on présume qu'il amenait certaines de ses victimes
à
ce chalet-là. Un chalet assez ordinaire. Là,
okay. pas de... Mais à l'abri des regards.
Oui, c'est, okay. c'est ça.
Donc, c'est ça. 12 juillet 63. Dion décide de passer à table et de conduire les policiers aux endroits où ils avaient enterré les autres corps.
Oui.
Ils vont en retrouver d'autres.
Oui.
Michel Morel, Alain Carrier, tout ça.
On les retrouve tous.
OK.
Encore une fois, j'ai vu les photos. On va passer les détails parce que c'est vraiment... C'est un peu comme dans l'affaire Picard. Là,
c'est des crimes violents.
C'est des enfants.
Une extrême violence.
Oui.
Puis, on découvre, au moment de l'enquête du coroner, son stratagème. C'est qu'il se faisait passer pour un photographe.
Oui. Okay. Il voulait prendre des photos d'enfants, puis essayait de les attirer de cette façon-là, de façon à se faire passer pour quelqu'un de pas dangereux. Mm-hmm. Là. Mais finalement, avec le gabarit qu'il avait, quand on l'a vu sur les photos, après qu'on l'a vu une fois, on comprend que les enfants n'avaient aucune chance là, en sa présence. Là, vraiment,
de s'en
là.
Sauver.
Non, c'est ça. C'est un... Ben, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé, ils l'ont surnommé le monstre de Pont-Rouge à une certaine époque.
Il était monstrueux.
Oui, il était costaud, là, vraiment, là.
Lors de l'enquête, bon, il va s'effondrer. Est-ce que c'était des larmes de crocodile? En tout cas, il va éclater en sanglots. ouais. euh, il, en 28 novembre 1963, il y a l'ouverture du procès.
Oui.
Et il va y avoir des gens qui vont marquer l'histoire du Québec, qui vont être impliqués dans ce procès-là.
Oui.
Maître Jean Bienvenu.
Oui, évidemment.
Maître Jean Bienvenu, l'ancien juge, l'ancien ministre sous Robert Bourassa. Il y a Maître Guy Bertrand.
Oui.
Le célèbre.
Oui, oui. Le seul et l'unique. Oui, oui.
Et le juge, c'est Gérard Lacroix.
Oui. Et, parenthèse encore sur Guy Bertrand, c'est que moi, j'ai lu les bouts que j'ai lus du procès. C'est surprenant pour un avocat. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça dans les lectures que je fais des procès. Là, ça donne l'expérience que ça donne. Je n'ai pas la prétention autre que ça. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est que comme jeune avocat, plaider une cause aussi importante, il se débrouillait très bien.
Et particularité de ce procès-là, on traduit Dion juste pour un cas.
Oui, c'est que ben là, vraiment la stratégie pour laquelle je peux pas. Je suis pas dans le secret des dieux des avocats.
On t'a pas caché là, on t'a pas dit.
Non, mais ce qui arrive dans certains cas, je le dirais peut-être pas pour celui-là, mais ça pourrait être ça, c'est que si, mettons, on a quatre victimes, mais que mettons qu'on prend quatre enquêtes, parce que c'est quatre quand même cas différents. Tu sais, si mettons, il y en a un qui a disparu dans telle région, l'autre dans telle région. Fait qu'on amasse le plus d'éléments possible. Et si on a le plus d'éléments sur une cause, un des quatre. Qu'on est sûr, là, on a vraiment tout, on a un témoin qui l'a vu, il est solide. Bien, on va porter des accusations juste sur un des cas et non, on laisse abandonner les trois autres pour être sûr de gagner la cause, dans le fond. La couronne va se baser sur quelque chose de solide.
On a pris un dossier plus béton.
C'est ça.
On va dire ça comme ça pour gagner notre cause.
Puis, dans le fond, s'il est condamné, à cette époque-là, c'est encore la peine de mort, même si on ne pendait plus depuis 2-3 ans. Mais un coup qu'on a eu la condamnation, les peines ne s'accumulent pas, fait que ça n'aurait rien donné de faire trois autres procès, gaspiller les fonds publics.
Fait qu'évidemment, dans ces cas-là, comme on a eu dans d'autres émissions, on va plaider la fameuse aliénation mentale. Guy Bertrand va plaider ça.
Ouais.
T'es pas conscient de ses actes, il savait pas ce qu'il faisait, etc., etc.
Mais ils vont surtout parler de son passé, là,
oui,
comme quoi qu'il avait été abusé, tout ça.
Puis qu'on partait bien, c'est une constante. Souvent, ces gens-là ont eu des traumas.
Mais je pense que c'est un peu comme avec Picard qu'on a parlé tantôt. C'est comme quand il y a des crimes très graves qui sortent un peu quand c'est des enfants épouvantables, comme Picard démembré, tout ça, on se dit, ça prend juste un fou pour faire ça. Fait que souvent, la connotation de plaider la folie est là. Mais ça veut pas dire que, tu sais, parce que la folie, il faut faire une différence aussi entre la folie médicale et la folie judiciaire.
Oui.
C'est pas la même. Folie judiciaire, les autres, ils ont juste besoin de savoir est-ce qu'il était conscient de ses actes au moment qu'il l'a fait. Parce que quelqu'un peut être schizophrène, mais commettre un acte au moment où il a toute sa tête.
Oui.
Tu sais, la maladie prouve pas que nécessairement.
Mais c'est des crimes, comment qu'on pourrait dire, tellement inhumains.
C'est ça. Oui.
Qu'on se conforte en se disant que c'est pas des gens qui étaient humains qu'ils
ont fait. Oui, parce qu'en tant que société, c'est nous autres, dur, on est comme normal, on ne veut pas s'identifier à ça.
Donc, c'est ça. À la Défense, un autre homme qui va marquer profondément le Québec, l'histoire du Québec, on va appeler à la barre le docteur Camille Lorrain.
Oui.
Qui est Camille Lorrain? C'est le père de la loi 101. Il était ministre sous le Parti québécois de M. Lévesque, mais avant ça, c'est un grand psychiatre, M. Lorrain. C'est un grand psychiatre qui a beaucoup fait avancer la psychiatrie au Québec, entre autres. Donc, il va être appelé. On va l'appeler, mais on met ça à huis clos. Le juge Lacroix ordonne un huis clos.
Oui, il y a une partie du chose qui est à huis clos, sauf que dans le procès, quand tu vas le consulter aujourd'hui aux archives, tout est accessible.
OK.
C'est sûr qu'il va plaider. On ne rentrera pas dans les détails parce qu'il faudrait vraiment prendre beaucoup de temps pour mettre les arguments en face l'un de l'autre.
Oui.
Mais lui, il va plaider en faveur de la défense, là, vraiment, pour dire que
c'est un cas psychiatre.
Oui, c'est ça. Okay. Puis la couronne ne présentera pas de contre-preuve nécessairement. T'sais, ils n'iront pas dire on va présenter notre propre psychiatre.
Ce qu'ils font des fois, ils se trouvent un psychiatre d'un bord, trouvent un psychiatre de l'autre.
Voilà.
C'est lui qui est le meilleur.
Un duel, là, vraiment.
Oui. Et on va expulser des journalistes.
Oui.
Lors de ce huis clos, parce que parce que le Soleil puis le journaliste du Chronicle Telegraph vont rapporter des choses qui sont dites en huis clos. Et le juge ne sera pas content.
Et voilà.
Et il va les expulser.
Oh, il y a même une poursuite impliquant le magazine McLean par après là-dedans. En tout cas, vraiment, ça... C'est une époque qui a brossé un peu.
Et on arrive à la fin du procès. Le jury délibère une vingtaine de minutes, ce qui est court.
Oui.
Et on déclare Léopold Dion coupable.
Coupable, oui.
Et le juge, comme le veut la tradition, se coiffe de son tricorne, enfile ses gants noirs.
Et le condamne à mort.
Et le condamne à mort, il ne sera pas exécuté.
Non.
Mais le juge va l'inviter à faire une déclaration.
Oui.
Une déclaration et on est... Non,
parce qu'à chaque fois, c'était un peu comme ça. Il y en a qui n'avaient rien à dire, mais on offrait aux condamnés, juste avant de dire la sentence puis la date de pendaison, là, même si la pendaison pouvait être commuée par la suite, on offrait aux condamnés l'occasion de dire un petit quelque chose. Puis lui, ben, ce qu'il a dit...
C'est « Avec ses mains, j'ai fait quatre petits saints. » Et dans l'émission « Les grands procès », on voit Guy Dorois dans une interprétation magistrale pour l'avoir déjà rencontré, physique très imposant. Oui. Je pense que c'était un très bon casting.
C'était lui que ça prenait. Là.
Je m'en rappelle, ça doit faire 25 ans, je n'ai pas vu ça, mais j'en ai encore des frissons de l'interprétation qu'il avait fait quand il avait dit ça. Et on va cumuler la sentence d'exécution va être commuée. Commuée en prison à vie. Et donc, c'est ça. Va faire du temps, Léopold. Va avoir un temps, on peut dire, assez...
Un peu mouvementé.
Mouvementé. il va agresser le gouverneur de la prison de Québec.
Oui, il réussit presque à s'évader. Il avait réussi
l'évasion.
À sortir, puis en tout cas, ils l'ont maîtrisé à coups de matraque. Je sais qu'il existe une photo, là, je ne sais pas si c'est dans Le Soleil, que ça a été publié ou quoi. Là. Puis les gardiens le ramènent à la prison, là, puis il est vraiment amoché. Là.
Et comme d'autres, on pense entre autres au John Wayne Gacy, qui peignait en prison.
Oui.
Dion va peindre aussi.
Ouais,
Il existe un commerce que je trouve très macabre. On n'a pas ça au Québec, heureusement. Mais aux États-Unis, il y a des prisonniers qui mettent en vente leurs œuvres, puis il y a un marché pour ça.
Ça existe aussi au Québec, à moins de grande échelle, mais oui, on pourrait s'en reparler.
Je pensais qu'on était mieux que les Américains. Donc, il va décéder, Léopold Dion, assassiné par un co-détenu. Normand Champagne, alias Laurence Darabi.
Oui.
Sur ce, on conclut ce bloc, puis on vous revient avec la conclusion. On est à la conclusion. Je vais te faire une confidence, Éric. Je vais vous faire une confidence aussi. Les gens qui regardent, moi, j'ai trouvé difficile à faire cette émission-là.
Okay.
C'est venu me chercher. Toi aussi, je présume. Oh, oui. Parce qu'évidemment, on parle de crime, on parle de meurtre, on parle de meurtre atroce à caractère sexuel sur des enfants. Si ça ne dérange pas quelqu'un, je pense qu'il y a un petit problème. Puis moi, ça m'a remué. Donc, on va suggérer quand même des suggestions de lecture. À tout seigneur, tout honneur, mon cher, ton livre sur l'affaire Denise Therrien.
Oui, tout est là. Tout le procès. Moi, comme on disait dans la première émission, je sais que tu aimes pas revenir sur le passé.
Mais... Ben non, pour comprendre le présent, il faut regarder, il faut consulter le passé.
Mais tout le procès est raconté dedans. J'ai les deux plaidoiries de Maître Jean de Bienvenue et de Maître Germain sont intégralement dedans, pour permettre au lecteur de faire sa propre opinion. En gros, c'est ça.
Puis ça peut être un beau complément avec celui de la nièce de Denise Therrien, Isabelle
Therrien,
Donc aussi, ça peut être intéressant.
Parce que, petite histoire parenthèse, il y a eu un livre entre elle, le sien et le mien, parce que s'il n'y avait pas eu ce livre-là, je ne l'aurais pas fait. Je considérais que celui d'Isabelle t'a très bien fait. Okay. Mais ce livre-là a remis en question celui d'Isabelle. Moi, ça m'avait choqué.
Tu voulais mettre les pendules, remettre les pendules.
Moi, ça m'avait choqué. Puis j'ai rencontré Isabelle. Okay. Puis d'un commun accord, on s'est dit, Gann, go, je me lance, puis on va rétablir un peu les faits, parce que c'est un petit peu un travail mal fait, bâclé, là, qui avait été fait.
On parle aussi de Marc Pigeon, qui a fait un livre sur un tueur en série qu'on a eu au Québec, William Fife.
La particularité, c'est que William Fife a plaidé coupable, puis en plaidant coupable, bien, il n'y a pas de procès. Fait que c'est pas accessible au public. Lui, ce qu'il a fait, bien, il est allé, un peu comme toi, là, avec les contacts qu'il y a parmi les policiers, il a fait ressortir ça, donc il a raconté l'histoire qui n'a pas été racontée, dans le fond. Donc, il y a beaucoup de détails, puis il fait un parallèle aussi avec d'autres soirs en série, d'autres, dont Léopold Dion.
Parce que malheureusement, on en a eu. On en a eu au Québec. C'est pas une gloire, mais comme les Américains, ils en ont eu aussi.
Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a.
Il y en a en Europe. C'est un phénomène qui est quand même rare.
Oui.
Ça défie l'entendement. C'est pour ça qu'on en fait des films puis des livres.
C'est ça. Il attire beaucoup l'attention, mais dans le fond, il y a beaucoup plus de crimes proportionnellement que les tueurs en série.
Puis j'entendais justement un policier, un journaliste qui avait interviewé Ted Bundy en prison quelques jours, je pense, avant sa condamnation à mort. Puis il disait, tu sais, Ted Bundy, là, le génie du crime. Là. Enlever des inconnus, les tuer dans des endroits où personne ne te voit. T'as pas besoin d'être si brillant.
Non, j'ai de la misère un peu avec ça, moi aussi. Ouais, ben, de... ben frais, donc...
Et on a, ben justement, on l'a parlé pour comprendre le phénomène de l'étude des tueurs en série. C'est plutôt, ça date un petit peu, mais si vous googlez là, sur YouTube, il y a des documentaires sur John Douglas. Donc, ben merci Eric, puis on se dit à la prochaine fois!
Chez Environ Connexion, nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Environ Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco, au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sally Estrie, au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion, au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes d'éboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Environ Connexion. Ma route, mon succès.
Le show à l'évêque. Truck Stop Québec.